Chapitre 6. Madame Arnaud était seule chez elle et tricotait avec la tranquillité fiévreuse que Pénélope devait mettre à son fameux ouvrage. Comme Pénélope, elle attendait son mari. Monsieur Arnaud passait des journées entières hors de chez lui. Il avait classe le matin et le soir. En général, il revenait déjeuner, bien qu'il traînât la jambe et que le lycée fût à l'autre bout de Paris. Il s'obligeait à cette longue course, moins par affection ou par économie que par habitude. Mais certains jours, il était retenu par des répétitions. Ou bien il profitait de ce qu'il était dans le quartier pour travailler dans une bibliothèque. Lucile Arnaud demeurait seule dans l'appartement vide. À l'exception de la femme de ménage, qui venait de 8 à 10 heures faire le gros ouvrage, et des fournisseurs qui le matin cherchaient et apportaient les commandes, personne ne sonnait à la porte. Dans la maison, elle ne connaissait plus personne. Christophe avait déménagé, et de nouveaux venus s'étaient installés dans le jardin aux lilas. Céline Chabran avait épousé Augustin Elsberger. Élie Elsberger était partie avec sa famille. On l'avait chargé en Espagne de l'exploitation d'une mine. Le vieux Veil avait perdu sa femme et n'habitait presque jamais son appartement de Paris. Seul Christophe et son amie Céline avaient conservé leur relation avec Lucile Arnaud. Mais ils habitaient loin, et pris par un labeur fatigant, il restait des semaines sans venir la voir. Elle ne devait compter que sur elle. Elle ne s'ennuyait point. Il lui suffisait de peu pour nourrir son intérêt. La moindre tâche journalière, une toute petite plante dont elle nettoyait avec des soins maternels le plumage frêle chaque matin, son tranquille chat gris qui avait fini par prendre un peu de ses manières, comme font les animaux domestiques qu'on aime bien. Il passait la journée, comme elle, au coin du feu, ou sur sa table, auprès de la lampe, surveillant ses doigts qui travaillaient, et parfois levant vers elle ses étranges prunelles qu'il observait un moment, puis s'éteignait indifférente. Les meubles même lui tenaient compagnie. Chacun d'eux était une figure familière. Elle avait un plaisir enfantin à leur faire la toilette, à essuyer doucement la poussière qui s'était attachée à leurs flancs, à les replacer avec 1000 égards dans leur coin habituel. Elle tenait avec eux un entretien silencieux. Elle souriait au beau meuble ancien, le seul qu'elle possédât, un fin bureau à cylindre Louis XVI. Elle éprouvait chaque jour la même joie à le voir. Elle n'était pas moins occupée à faire la revue de son linge. Elle passait des heures debout sur une chaise, la tête et les bras enfoncés dans la grande armoire paysanne, regardant et rangeant, tandis que le chat, intrigué, des heures la regardait. Mais le bonheur était, quand les affaires finies, après avoir déjeuné seule, Dieu sait comment, elle n'avait pas grand appétit, après avoir fait dehors les courses indispensables, sa journée terminée, elle rentrait vers 4 heures, et s'installait à sa fenêtre ou près du feu, avec son ouvrage et son minet. Parfois elle trouvait un prétexte pour ne pas sortir du tout. Elle était heureuse quand elle pouvait rester enfermée, surtout l'hiver, lorsqu'il neigeait. Elle avait horreur du froid, du vent, de la boue, de la pluie, étant elle aussi une petite chatte très propre, délicate et douillette. Elle eût mieux aimé ne pas manger que de sortir pour chercher son déjeuner, quand par hasard les fournisseurs l'oubliaient. En ce cas, elle grignotait une tablette de chocolat ou un fruit du buffet. Elle se gardait bien de le dire à Arnaud. C'était là ses escapades. Alors, pendant ses journées de lumière à demi éteinte, et quelquefois aussi pendant de beaux jours ensoleillés, au dehors le ciel bleu resplendissait, le bruit de la rue bourdonnait autour de l'appartement dans le silence et l'ombre, c'était comme un mirage qui enveloppait l'âme. Installée dans son coin préféré, son tabouret sous les pieds, son tricot dans les mains, elle s'absorbait, immobile, tandis que ses doigts marchaient. Elle avait près d'elle un de ses livres aimés, un de ses humbles volumes à couverture rouge, une traduction de romans anglais. Elle lisait très peu, à peine un chapitre par jour, et le volume sur ses genoux restait longtemps ouvert à la même page, ou même ne s'ouvrait point. Elle le connaissait déjà, elle le rêvait. Ainsi, les longs romans de Dickens et de Thackeray se prolongeait pendant des semaines, dont sa rêverie faisait des années. Ils la berçaient de leur tendresse. Les gens d'aujourd'hui, qui lisent vite et mal, ne savent plus la force merveilleuse qui rayonne des livres que l'on boit lentement. Madame Arnault n'avait aucun doute que la vie de ces êtres de roman ne fût aussi réelle que la sienne. Il en était à qui elle eût voulu se dévouer, la tendre jalouse Lady Castlewood, l'amoureuse silencieuse, au cœur maternel et virginal, lui était une sœur. Le petit Dombey était son cher petit garçon. Elle était Dora, la femme-enfant qui va mourir. Elle tendait les bras vers ces âmes d'enfants qui traversent le monde avec des yeux braves et purs. Autour d'elle passait un cortège d'aimables gueux et d'originaux inoffensifs, poursuivant leurs chimères ridicules et touchantes, et à leur tête l'affectueux génie du bon Dickens, riant et pleurant à ses rêves. À ces moments, quand elle regardait par la fenêtre, elle reconnaissait parmi les passants telle silhouette chérie ou redoutée du monde imaginaire. Derrière les murs des maisons, elle devinait les mêmes vies. Si elle n'aimait pas à sortir, c'est qu'elle avait peur de ce monde, plein de mystères. Elle apercevait autour d'elle des drames qui se cachent, des comédies qui se jouent. Ce n'était pas toujours une illusion. Dans son isolement, elle était parvenue à ce don d'intuition mystique qui fait voir dans les regards qui passent bien des secrets de leur vie d'hier et de demain, qu'ils ignorent souvent. Elle mêlait à ses visions véridiques des souvenirs romanesques qui les déformaient. Elle se sentait noyée dans cet immense univers. Il lui fallait rentrer chez elle pour reprendre pied. C'était tout. C'était des mondes. Combien de tragédies ignorées, même des plus intimes, au fond des vies les plus calmes, les plus médiocres en apparence. Et la plus tragique, qu'il ne se passe rien dans ces vies d'espoir qui crient désespérément vers ce qui est leur droit, leur bien promis par la nature et refusé, qui se dévorent dans une angoisse passionnée et qui n'en montrent rien au dehors. Madame Arnault, pour son bonheur, n'était pas occupée que d'elle-même. Sa vie ne remplissait qu'une part de ses rêveries. Elle vivait aussi la vie de ceux qu'elle connaissait ou qu'elle avait connus. Elle se mettait à leur place, elle pensait à Christophe, à son amie Cécile. Elle y pensait aujourd'hui. Les deux femmes s'étaient prises d'affection l'une pour l'autre. Chose curieuse, des deux, c'était la robuste Cécile qui avait besoin de s'appuyer sur la fragile Madame Arnault. Au fond, cette grande fille, joyeuse et bien portante, était moins forte qu'elle n'en avait l'air. Elle passait par une crise. Les cœurs les plus tranquilles ne sont pas à l'abri des surprises. Un sentiment très tendre s'était insinué en elle. Elle ne voulait point le reconnaître d'abord. Mais il avait grandi jusqu'à ce qu'elle fût forcée d'en convenir. Elle aimait Olivier. Les manières douces et affectueuses du jeune homme, le charme un peu féminin de sa personne, ce qu'il avait de faible et de livré, tout de suite l'avait attiré. Une nature maternelle aime qui a besoin d'elle. Ce qu'elle avait ensuite appris des chagrins du ménage lui avait inspiré pour Olivier une pitié dangereuse. Sans doute, ses raisons n'eussent pas suffi. Qui peut dire pourquoi un être s'éprend d'un autre? Ni l'un ni l'autre n'y est pour rien, souvent. C'est leur. Elle livre par surprise un cœur qui n'est point sur ses gardes à la première affection qui se trouve sur son chemin. Dès le moment qu'elle ne put en douter, Cécile s'efforça courageusement d'arracher l'aiguillon d'un amour qu'elle jugeait coupable et absurde. Elle se fit souffrir longtemps et elle ne guérit point. Personne ne s'en fut douté. Elle mettait sa vaillance à avoir l'air heureuse. Madame Arnault était seule à savoir ce qu'il lui en coûtait. Cécile venait poser sa tête à la nuque robuste sur la mince poitrine de Madame Arnault. Elle versait quelques larmes en silence, elle l'embrassait, et puis elle s'en allait en riant. Elle avait une adoration pour cette frêle amie, en qui elle sentait une énergie morale et une foi supérieure à la sienne. Elle ne se confiait pas, mais Madame Arnault savait deviner à demi-mot. Le monde lui semblait un malentendu mélancolique, impossible de le résoudre. On ne peut que l'aimer, avoir pitié, rêver. Et quand la ruche des rêves bourdonnait trop en elle, quand la tête lui tournait, elle allait à son piano et laissait ses mains frôler les touches, au hasard, à voix basse, pour envelopper de la lumière apaisée des sons le mirage de la vie. Mais la brave petite femme n'oubliait pas l'heure des devoirs journaliers. Et quand Arnault rentrait, Il trouvait la lampe allumée, le souper prêt, et la figure pâlote et souriante de sa femme qui l'attendait, et il ne se doutait point de ses voyages qu'elle avait faits. Le difficile avait été de maintenir ensemble, sans heurts, les deux vies, la vie quotidienne et l'autre, la grande vie de l'esprit, aux horizons lointains. Ce ne fut pas toujours aisé. Heureusement, Arnaud vivait, lui aussi, une vie en partie imaginaire, dans les livres, les œuvres d'art, dont le feu éternel entretenait la flamme tremblante de son âme. Mais il était, ces dernières années, de plus en plus préoccupé par les petits tracas de sa profession, les injustices, les passe-droits, les ennuis avec ses collègues ou avec ses élèves. Il était aigri, il commençait à parler de politique, à déblatérer contre le gouvernement et contre les juifs. Il rendait Dreyfus responsable de ses mécomptes universitaires. Son humeur chagrine se communiqua un peu à Madame Arnaud. Elle approchait de la quarantaine. Elle passait par un âge où sa force vitale était troublée, cherchait son équilibre. Il se fit dans sa pensée de grandes déchirures. Pendant un temps, ils perdirent l'un et l'autre toute raison d'exister, car ils n'avaient plus où attacher leur toile d'araignée. Si faible que soit le support de réalité, il en faut un au rêve. Tout support leur manquait. Ils ne trouvaient plus à s'appuyer l'un sur l'autre. Au lieu de l'aider, il s'accrochait à elle, et elle se rendait compte qu'elle ne suffisait pas à le soutenir. Alors, elle ne pouvait plus se soutenir elle-même. Seul un miracle était capable de la sauver. Elle l'appelait. Il vint des profondeurs de l'âme. Madame Arnaud sentit sourdre de son cœur solitaire le besoin sublime et absurde de créer malgré tout de tisser sa toile à travers l'espace, pour la joie de tisser, s'en remettant au vent, au souffle de Dieu, de la porter là où elle devait aller. Et le souffle de Dieu la rattacha à la vie, lui trouva des appuis invisibles. Alors le mari et la femme recommencèrent tous deux de filer patiemment la magnifique et vaine toile de leurs songes, faite du plus pur de leur sang. Madame Arnaud était seule chez elle. Le soir venait. La sonnette de la porte retentit. Madame Arnaud, réveillée de sa songerie avant l'heure habituelle, tressaillit. Elle rangea soigneusement son ouvrage et alla ouvrir. Christophe entra. Il était très ému. Elle lui prit affectueusement les mains. « Qu'avez-vous, mon ami ? » demanda-t-elle. « Ah, dit-il, Olivier est revenu. »« Revenu ? Ce matin, il est arrivé. Il m'a dit, « Christophe, viens à mon secours. » Je l'ai embrassé, il pleurait. Il m'a dit, « Je n'ai plus que toi. » Elle est partie. Madame Arnaud, saisie, joignit les mains et dit, « Les malheureux !»« Elle est partie, » répéta Christophe, « partie avec son amant. » « Et son enfant ?» demanda Madame Arnaud. « Mari, enfant, elle a tout laissé. »« La malheureuse !» redit Madame Arnaud. « Il l'aimait, » dit Christophe, « il l'aimait uniquement. » « Il ne se relèvera pas de ce coup. Il me répète, « Christophe, elle m'a trahi. Ma meilleure amie m'a trahi. J'ai beau lui dire, « Puisqu'elle t'a trahi, c'est qu'elle n'était pas ton amie. Elle est ton ennemie. Oublie-la ou tue-la. »« Oh, Christophe, que dites-vous ? C'est horrible. » »« Oui, je sais, cela vous paraît à tous une barbarie préhistorique. Tuer. Il faut entendre votre joli monde parisien protester contre les instincts de brute qui poussent le mâle à tuer sa femelle qui le trompe, et prêcher l'indulgente raison. Les bons apôtres, il est beau de voir s'indigner contre le retour à l'animalité ce troupeau de chiens mêlés. Après avoir outragé la vie, après lui avoir enlevé tout son prix, il l'entoure d'un culte religieux. Quoi, cette vie sans cœur et sans honneur, cette matière, un battement de sang dans un morceau de chair, voilà ce qui leur semble digne de respect. Ils n'ont pas assez d'égard pour cette viande de boucherie. C'est un crime d'y toucher. Tuez l'âme si vous voulez, mais le corps est sacré. Les assassins de l'âme sont les pires assassins, mais le crime n'excuse pas le crime, et vous le savez bien. Je le sais, mon ami, vous avez raison, je ne pense pas ce que je dis. Qui sait, je le ferai peut-être. Non, vous vous calomniez, vous êtes bon. Quand la passion me tient, je suis cruel comme les autres. Voyez comme je viens de m'emporter. Mais lorsqu'on voit pleurer un ami qu'on aime, comment ne pas haïr qui le fait pleurer? Et sera-t-on jamais trop sévère pour une misérable qui abandonne son enfant pour courir après un amant? Ne parlez pas ainsi, Christophe, vous ne savez pas. Quoi, vous la défendez?
Je la plains.
Je plains ceux qui souffrent, je ne plains pas ceux qui font souffrir. Et croyez-vous qu'elle n'ait pas souffert, elle aussi? Croyez-vous que ce soit de gaieté de cœur qu'elle ait abandonné son enfant et détruit sa vie, car sa vie aussi est détruite? Je la connais bien peu, Christophe. Je ne l'ai vue que deux fois, et seulement en passant. Elle ne m'a rien dit d'amical, elle n'avait pas de sympathie pour moi. Et pourtant, je la connais mieux que vous. Je suis sûr qu'elle n'est pas mauvaise. Pauvre petite, je devine ce qui a pu se passer en elle. Vous, mon ami, dont la vie est si digne, si raisonnable. Moi, Christophe? Oui, vous ne savez pas, vous êtes bon. Mais vous êtes un homme dur, comme tous les hommes, malgré votre bonté. Un homme durement fermé à tout ce qui n'est pas vous. Vous ne vous doutez pas de celles qui vivent auprès de vous. Vous les aimez à votre façon, mais vous ne vous inquiétez pas de les comprendre. Vous êtes si facilement satisfait de vous-même. Vous êtes persuadé que vous nous connaissez. Hélas, si vous saviez quelle souffrance c'est parfois pour nous de voir, non que vous ne nous aimez point, mais comment vous nous aimez, et que voilà ce que nous sommes pour ceux qui nous aiment le mieux. Il y a des moments, Christophe, où nous enfonçons les ongles dans la paume pour ne pas crier « Oh, ne nous aimez pas, ne nous aimez pas !» tout plutôt que de nous aimer ainsi. Connaissez-vous cette parole d'un poète? Même dans sa maison, au milieu de ses enfants, la femme, entourée d'honneurs simulés, endure un mépris mille fois plus lourd que les pires misères. Pensez à cela, Christophe. Ce que vous dites me bouleverse. Je ne comprends pas bien. Mais ce que j'entrevois... Alors, vous-même? J'ai connu ces tourments. Est-ce possible? N'importe. Vous ne me ferez pas croire que vous eussiez jamais agi comme cette femme. Je n'ai pas d'enfant, Christophe. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Non, cela ne se peut pas. J'ai foi en vous. Je vous respecte trop. Je jure que cela ne se peut pas. Ne jurez pas. J'ai été bien près de faire comme elle. J'ai de la peine de détruire la bonne idée que vous avez de moi. Mais il faut que vous appreniez un peu à nous connaître, si vous ne voulez pas être injuste. Oui, j'ai été à deux doigts d'une folie pareille. Et si je ne l'ai point faite, vous y êtes pour quelque chose. Il y a de cela 2 ans, j'étais dans une période de tristesse qui me rongeait. Je me disais que je ne servais à rien, que personne ne tenait à moi, que personne n'avait besoin de moi, que mon mari aurait pu se passer de moi, que c'était pour rien que j'avais vécu. J'étais sur le point de me sauver, de faire Dieu sait quoi. Je suis monté chez vous. Est-ce que vous vous souvenez? Vous n'avez pas compris pourquoi je venais. Je venais vous faire mes adieux. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que vous m'avez dit. Je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il y a certains mots de vous, vous ne vous doutiez pas, ils m'ont été une lumière. Il suffisait de la moindre chose, à ce moment, pour me perdre ou me sauver. Quand je suis sorti de chez vous, je suis rentré chez moi, je me suis enfermé, j'ai pleuré tout le jour. Et après, c'était bien, la crise était passée. « Et aujourd'hui, demanda Christophe, vous le regrettez ?»« Aujourd'hui, dit-elle. Ah, si j'avais fait cette folie, je serais au fond de la Seine. Je n'aurais pu supporter cette honte, et le mal que j'aurais fait à mon pauvre homme. »« Alors, vous êtes heureuse ?»« Oui, autant qu'on peut être heureux en cette vie. C'est une chose si rare d'être deux qui se comprennent, qui s'estiment, qui savent qu'ils sont sûrs l'un de l'autre, non par une simple croyance d'amour qui est souvent une illusion, mais par l'expérience d'années passées ensemble, d'années grises, médiocres, même avec, surtout avec le souvenir de ces dangers que l'on a surmontés. À mesure que l'on vieillit, cela devient meilleur. Elle se tut et brusquement rougit. Mon Dieu, comment ai-je pu raconter? Qu'est-ce que j'ai fait? Oubliez, Christophe, je vous en prie, personne ne doit savoir. Ne craignez rien, dit Christophe en lui serrant la main, c'est une chose sacrée. Madame Arnaud, malheureuse d'avoir parlé, se détourna un moment, puis elle dit « Je n'aurais pas dû vous raconter. » Mais voyez-vous, c'était pour vous montrer que même dans les ménages les plus unis, même chez les femmes que vous estimez, Christophe, il y a de ces heures non pas seulement d'aberration, comme vous dites, mais de souffrances réelles, intolérables, qui peuvent conduire à des folies et détruire toute une vie, voire deux. Il ne faut pas être trop sévère. On se fait bien souffrir, même quand on s'aime le mieux.
Faut-il donc vivre seul, chacun de son côté? C'est encore pis pour nous. La vie de la femme qui doit vivre seule, lutter comme l'homme et souvent contre l'homme, est quelque chose d'affreux dans une société qui n'est pas faite à cette idée et qui y est en grande partie hostile. Elle resta silencieuse, le corps légèrement penché en avant, les yeux fixés sur la flamme du foyer. Puis elle reprit doucement de sa voix un peu voilée, qui hésitait par instant, s'arrêtait, puis continuait son chemin. Pourtant ce n'est pas notre faute. Quand une femme vit ainsi, ce n'est pas par caprice, c'est qu'elle y est forcée. Elle doit gagner son pain et apprendre à se passer de l'homme, puisqu'il ne veut pas d'elle quand elle est pauvre. Elle est condamnée à la solitude sans en avoir aucun des bénéfices. Car chez nous, elle ne peut, comme l'homme, jouir de son indépendance, le plus innocemment, sans éveiller le scandale. Tout lui est interdit. J'ai une petite amie, professeure dans un lycée de province. Elle serait enfermée dans une geôle sans air, qu'elle ne serait pas plus seule et plus étouffée. La bourgeoisie ferme ses portes à ces femmes qui s'efforcent de vivre en travaillant. Elle affiche pour elles un dédain soupçonneux. La malveillance guette leur moindre démarche. Leurs collègues du lycée de garçons les tiennent à l'écart, soit parce qu'elles ont peur des cancans de la ville, soit par hostilité secrète ou par sauvagerie. L'habitude du café, des conversations débraillées, la fatigue après le travail du jour, le dégoût, par satiété, des femmes intellectuelles. Elles-mêmes, elles ne peuvent plus se supporter, surtout si elles sont forcées de loger ensemble au collège. La directrice est souvent la moins capable de comprendre les jeunes âmes affectueuses que découragent les premières années de ce métier aride et cette solitude inhumaine. Elle les laisse agoniser en secret, sans chercher à les aider. Elle trouve qu'elles sont des orgueilleuses. Nul ne s'intéresse à elles. Leur manque de fortune et de relations les empêche de se marier. La quantité de leurs heures de travail les empêche de se créer une vie intellectuelle qui les attache et les console. Quand une telle existence n'est pas soutenue par un sentiment religieux ou moral exceptionnel, je dirais même anormal, maladif, car il n'est pas naturel de se sacrifier totalement, c'est une mort vivante. À défaut du travail de l'esprit, la charité offre-t-elle plus de ressources aux femmes? Que de déboires elle réserve à celles qui ont une âme trop sincère pour se satisfaire de la charité officielle ou mondaine, des parlottes philanthropiques, de ce mélange odieux de frivolité, de bienfaisance et de bureaucratie, de cette façon de jouer avec la misère entre deux flirts en papotant. Quand l'une d'elles, écœurée, a l'incroyable audace de se risquer seule au milieu de cette misère qu'elle ne connaît que par lui dire, quelle vision pour elle, presque impossible à supporter. C'est un enfer. Que peut-elle pour y venir en aide? Elle s'est noyée dans cet océan d'infortune. Elle lutte cependant, elle s'efforce de sauver quelques-uns de ces malheureux, elle s'épuise pour eux, elle se noie avec eux. Trop heureuse si elle a réussi à en sauver un ou deux. Mais elle, qui la sauvera? Qui s'inquiète de la sauver? Car elle souffre, elle aussi, de la souffrance des autres et de la sienne. À mesure qu'elle donne sa foi, elle en a moins pour elle. Toutes ses misères s'accrochent à elle, et elle n'a rien à quoi se tenir. Personne ne lui tend la main. Et parfois on lui jette la pierre. Vous avez connu, Christophe, cette femme admirable qui s'était donnée à l'œuvre de charité la plus humble et la plus méritoire. Elle recueillait chez elle les prostituées des rues qui viennent d'accoucher, les malheureuses filles dont l'assistance publique ne veut pas ou qui ont peur de l'assistance publique. Elle s'efforçait de les guérir physiquement et moralement, de les garder avec leurs enfants, de réveiller chez elles le sentiment maternel, de leur refaire un foyer, une vie de travail honnête. Elle n'avait pas trop de toutes ses forces pour cette tâche sombre, pleine de déboires et d'amertume. On en sauve si peu veulent être sauvés. Et tous ces petits-enfants qui meurent, ces innocents condamnés en naissant. Cette femme qui avait pris sur elle toute la douleur des autres, cette innocente qui expiait volontairement le crime de l'égoïsme humain, comment croyez-vous qu'on la jugea, Christophe? La malveillance publique l'accusait de gagner de l'argent avec son œuvre, et même avec ses protégés. Elle dut quitter le quartier, partir découragée. Jamais vous n'imaginerez assez la cruauté de la lutte qu'ont à livrer les femmes indépendantes contre la société d'aujourd'hui, conservatrice et sans cœur, qui est moribonde et qui dépense le peu d'énergie qui lui reste à empêcher les autres de vivre. Ma pauvre amie, ce n'est pas le lot seulement des femmes. Nous connaissons tous ces luttes. Je connais aussi le refuge. Lequel ? L'art. Bon pour vous, non pour nous. Et même parmi les hommes, combien sont-ils ceux qui peuvent en profiter ? Voyez notre amie Cécile, elle est heureuse. Qu'en savez-vous ? Ah, que vous avez vite fait de juger. Parce qu'elle est vaillante, parce qu'elle ne s'attarde pas sur ce qui l'attriste, parce qu'elle le cache aux autres, vous dites qu'elle est heureuse. Oui, elle est heureuse d'être bien portante et de pouvoir lutter. Mais vous ne savez pas ces luttes. Croyez-vous qu'elle était faite pour cette vie décevante de l'art ? L'art. Quand on pense qu'il y a de pauvres femmes qui aspirent à la gloire d'écrire ou de jouer ou de chanter, comme au fait du bonheur. Faut-il qu'elles soient dénuées de tout, qu'elles ne sachent plus à quelle affection se prendre ? L'art. Qu'avons-nous à faire de l'art si nous n'avons tout le reste avec ? Il n'y a qu'une chose au monde qui peut faire oublier tout le reste. Tout le reste, c'est un cher petit enfant. Et quand on l'a, vous voyez qu'il ne suffit même pas. Oui, pas toujours. Les femmes ne sont pas très heureuses. Il est difficile d'être une femme, beaucoup plus que d'être un homme. Vous ne vous en doutez pas assez. Vous, vous pouvez vous absorber en une passion d'esprit, en une activité. Vous vous mutilez, mais vous en êtes plus heureux. Une femme saine ne le peut sans souffrance. Il est inhumain d'étouffer une partie de soi-même. Nous, quand nous sommes heureuses d'une façon, nous regrettons l'autre façon. Nous avons plusieurs âmes. Vous, vous n'en avez qu'une, plus vigoureuse, souvent brutale et même monstrueuse. Je vous admire. Mais ne soyez pas trop égoïste. Vous l'êtes beaucoup sans vous en douter. Vous nous faites bien du mal, sans vous en douter. Que faire ? Ce n'est pas notre faute. Non, ce n'est pas votre faute, mon bon Christophe. Ce n'est ni votre faute, ni la nôtre. Au bout du compte, voyez-vous, c'est que la vie n'est pas du tout une chose simple. On dit qu'il n'y a qu'à vivre d'une façon naturelle. Mais qu'est-ce qui est naturel ? C'est vrai, rien n'est naturel dans notre vie. Le célibat n'est pas naturel, le mariage ne l'est pas non plus. Et l'union libre livre les faibles à la rapacité des forts. Notre société même n'est pas une chose naturelle, nous l'avons fabriquée. On dit que l'homme est un animal sociable, quelle bêtise ! Il a bien fallu qu'il le devint pour vivre. Il s'est fait sociable pour son utilité, sa défense, son plaisir, sa grandeur. Cette nécessité l'a amené à souscrire certains pactes. Mais la nature regimbe et se venge de la contrainte. La nature n'a pas été faite pour nous. Nous tâchons de la réduire. C'est une lutte. Il n'est pas étonnant que nous soyons souvent battus. Comment sortir de là ? En étant fort. En étant bon. Ô Dieu, être bon, arracher son corset d'égoïsme, respirer, aimer la vie, la lumière, son humble tâche, le petit coin du sol où l'on enfonce ses racines. Ce qu'on ne peut avoir en horizon, s'efforcer de l'avoir en profondeur et en hauteur, comme un arbre à l'étroit qui monte vers le ciel. Oui, et d'abord s'aimer les uns les autres. Si l'homme voulait sentir davantage qu'il est le frère de la femme et non pas seulement sa proie, ou qu'elle doit être la sienne. S'ils voulaient tous les deux dépouiller leur orgueil et penser chacun un peu moins à soi et un peu plus à l'autre. Nous sommes faibles, aidons-nous. Ne disons pas à celui qui est tombé, je ne te connais plus. Mais courage, ami, nous sortirons de là. Ils se turent. Assis devant le foyer, le petit Minet entre eux, tous trois immobiles, absorbés et regardant le feu. La flamme près de s'éteindre caressait de son battement d'aile le fin visage de Madame Arnaud qui rosissait une exaltation intérieure qui ne lui était pas coutumière. Elle s'étonnait de s'être ainsi livrée. Jamais elle n'en avait tant dit. Jamais plus elle n'en dirait tant. Elle posa sa main sur celle de Christophe et dit « Que faites-vous de l'enfant ?» C'était à cela qu'elle pensait depuis le commencement. Elle parlait. Elle était une autre femme. Elle était comme grisée. Mais à cela seule, elle pensait. Dès les premiers mots de Christophe, elle s'était bâti un roman dans son cœur. Elle pensait à l'enfant que la mère avait laissé, au bonheur de l'élever, de tresser autour de cette petite âme ses rêves et son amour. Et elle se disait, Non, c'est mal. Je ne dois pas me réjouir de ce qui est le malheur des autres. » Mais c'était plus fort qu'elle. Elle parlait, et son cœur silencieux était baigné d'espoir. Christophe dit, « Oui, sans doute, nous y avons pensé. Le pauvre petit, ni Olivier ni moi ne sommes capables de l'élever. Il faut les soins d'une femme. J'avais songé qu'une amie voudrait bien nous aider. » Madame Arnaud respirait à peine. Christophe dit, « Je voulais vous en parler. Et puis Cécile est venue justement tout à l'heure. Quand elle a su la chose, quand elle a vu l'enfant, elle était si émue, elle a montré tant de joie, elle m'a dit, « Christophe !» Le sang de Madame Arnaud s'arrêta. Elle n'entendit pas la suite. Tout se brouilla devant ses yeux. Elle avait envie de crier, « Non, non, donnez-le-moi » Christophe parlait. Elle n'entendait pas ce qu'il disait. Mais elle fit effort sur elle-même. Elle pensa aux confidences de Cécile. Elle pensa, « Elle en a plus besoin que moi. » Mais moi, j'ai mon cher Arnaud, et puis toutes mes choses. Et puis, je suis plus vieille. Et elle sourit et dit, « C'est bien. » Mais la flamme du foyer s'était éteinte, et aussi la roseur du visage. Et sur le cher visage, il n'y avait plus que l'expression habituelle de bonté résignée.